Alors, on commence à nouveau Sefer. Sefer Shemot. Le Sefer Bereshit, jusqu'alors, c'était un Sefer dans lequel on nous a donné tous les éléments pour comprendre ce qui va se passer et qui va être donc rapporté dans le Sefer Shemot, qui est donc la naissance, le livre de la, contient la naissance du clan Israël, ou plus exactement la naissance de la deuxième mouture du clan Israël, c'est-à-dire celle où les Bnei Israël reçoivent la Torah, donc qui est différente de la première mouture où les Bnei Israël, enfin, l'ancêtre du clan Israël, ont trouvé la Torah au fond d'eux-mêmes, en quelque sorte, sans qu'elle leur ait été donnée. Le Ramban, bien sûr, il fait une introduction au Sefer Shemot, et il écrit, entre autres, le texte a terminé le Sefer Bereshit, Shehu Sefer Hayetzira. Le livre de la Yitzhira, c'est la formation, en quelque sorte. Alors, attendez, il y a du monde. Oui. Le livre de la formation, Yitzhira. Vous remarquez que il ne dit pas que c'est le livre de Briat HaOlam. Par contre, donc, il appelle ça le Sefer de la Yitzhira, avec Chidusha Olam, avec le renouveau ou le nouveau, la nouveauté du monde, Yetzirat Kol Notsar, donc la formation de toutes les créatures, Mikrea Avot Kulam, Shem Ke'en Yetzira Le Zaram. Et donc, on nous raconte un peu l'histoire des Avot, ce qui est d'une certaine manière la formation de leur descendance. Ipne shekol mikriyem siyurei dvarim lirmoz leodia kol ha'atid lavo lahem. Parce que tout ce qui arrive aux Avot, et donc tout ce qui est décrit dans le Sefer Réchit, ce sont des tsiurim, c'est-à-dire des représentations de façon allusive pour nous faire connaître le futur, justement, de leurs descendants. Et une fois qu'on a terminé avec la Yetzira, on commence un nouveau Sefer. Beinyan amaase abba mina ramazimaem. C'est-à-dire maintenant on va décrire les actions qui sont consécutives à toutes les allusions qui ont été annoncées dans le Sefer de Bereshit. Donc dans le Sefer Bereshit, on a appris des choses sur le Boréolam, c'est-à-dire, c'est pas de la théologie, jamais de théologie, mais sur le fait, la façon qu'a Hachem de gouverner le monde, sur la Elakout, sur le rapport avec la divinité, sur la création, Yesh Me'ayin, comme on a vu. On a appris ce que c'est qu'un miracle, Nes Nistar, miracle caché. On a appris des choses sur les Avot, évidemment. On a appris sur Yosef, sur les Shvatim, qui sont effectivement les racines du clan Israël. Il y a un sidour qui est un des sidouré Agra, sidour qui édité avec des commentaires du Gaon de Vilna, il ramène Pirush Rashi. Il y a un sefer qu'on attribue à Rashi qui s'appelle Sefer HaPardes. Où Rashi, là-bas, il explique que quand nous disons Agadol, Agibor, Ve'anora, comme nous disons par exemple dans la Hamida, il est grand, il est puissant, il est terrible. Zé, olé, ala avot. Ça, dit Rashi, ça concerne les avot. Akel Agadol, Nehemar be'Avraham. C'est dit sur Avraham, chez Nehemar ve'eschal le goy gadol. Agibor ze Yitzhak, etc. Nora ze Yaakov. Chez Nehemar, ma Nora ma komazé, parce que Yaakov a dit, à l'endroit où il s'est couché, où il a rêvé la fameuse échelle, il a dit, cet endroit-là, il est terrible. Kshelomdim ala avot, lomdim ala boreolam. C'est-à-dire que quand on étudie le comportement des avot, alors ça nous dit quelque chose du Créateur, c'est-à-dire de la façon dont Hachem gouverne le monde. Abraham, Alidé Maasav, Nisyonotav, Avraham Avinu, avec les actions, les épreuves qu'il a eues, il nous a dévoilé qu'est-ce que veut dire Gadol quand on parle du Boréolam. On apprend à la paracha de Yaakov, on apprend ce que veut dire Nora. Ça, c'est le Sefer Bereshit. Le Sefer Shemot, c'est autre chose. C'est plus du tout la même chose. Là, il commence une Anaga Hadasha, une nouvelle façon de gouverner le monde, en particulier avec de gouverner le Klal Israël. Ce Klal Israël qui est donc, comme on a vu, les descendants biologiques, en fait, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est un niveau différent, une madriga de Giloui. Hachem se dévoile dans le Sefer Shemot. Jusque-là, comme Hachem va le dire directement à Moshe Rabbeinu, jusque-là, les avots expérimentaient leur relation avec la divinité Kel Shakai. C'est ça le nom divin qui fonctionnait dans le Sefer Bereshit. Excusez-moi. C'est un rapport nouveau où Hachem se dévoile. C'est-à-dire, par exemple, on va aussi changer de nom divin. Le rapport de Moshe Rabbeinu et des Bnei Israël en Sefer Shemot, c'est plus avec Kel Shakai. Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Mais maintenant, on va passer au tétragramme. C'est-à-dire, la relation avec le tétragramme, on ne l'a encore pas vue à l'œuvre. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, je ne me suis pas fait connaître au Avot avec mon nom de tétragramme, Yudke Vavke. Dans le Sefer Shemot, on aura le galout et la sortie d'Égypte. Et désormais, c'est comme ça que nous connaîtrons, que nous aurons un rapport avec la divinité sous son nom de tétragramme. Yud-Kevavke. Il y a un commentaire du Rajba. Le Rajba, c'était un très très grand maître à l'époque espagnole, très grand décisionnaire. Il a fait un commentaire, par exemple, il commente le kiddush, la notion de kiddush. Et là-bas, il explique la différence, le changement des noms. Au début du kiddush et à la fin du kiddush. Au début du kiddush, nous disons lachon nista, on utilise Asher kiddushanu bemitzvotav veratzabanu. Il nous a sanctifiés par ses mitzvot et il nous a agréés. Le Shabbat kodesho et son Shabbat. Inchilano, il nous l'a donné en héritage. Pourquoi? Parce que le Shabbat, dans la première partie du Kiddush, c'est Zecher le Maaseh Bereshit. Un Shabbat en souvenir de Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est Nistar. Hachem est caché dans Maaseh Bereshit. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons connaître du Créateur, c'est uniquement donc ses actions, effectivement. Maasav. Mais dans Yitzhak Mitzrayim, qui est donc le début du Sefer Shemot, il y a une façon de le connaître différente. À ce moment-là, Hachem a décidé de se dévoiler dans le monde. Et c'est à ça que correspond la deuxième partie du Kiddush, le Shabbat. À ce moment-là, on parlera de Zecher Leitziat Mitzrayim. Première partie, Maaseh Bereshit. Deuxième partie, souvenir de la sortie d'Égypte. Et à ce moment-là, on lui parle au style direct, c'est-à-dire Kibanu Bacharta. Tu as choisi, tu nous as choisi. Otanu, tu nous as sanctifiés. Parce que dans Yitzhak Mitzrayim, le Boréolam s'est dévoilé. Ça, c'est ce que dit Rashba. Le Ramban, lui aussi, il dit, Vehine agalut enenon nishlam ad yom tu shuvam el mekomam vel malat avotam yashuvu. Le Ramban dit ici quelque chose qui va être très important. Il dit, le galout, l'exil en question, l'exil en Égypte, il n'est pas terminé tant que les Bnei Israël ne soient pas retournés, elles, mekomam, tant qu'ils ne sont pas revenus en leur lieu et qu'ils n'ont pas retrouvé malat avotam. Ça veut dire que quand on est sorti d'Égypte, on n'est pas du tout. D'après Ramban, le galout n'est pas du tout terminé. Ukshebaou el har Sinaï ve'asu ha-Mishkan, quand les Bnei Israël sont arrivés au Sinaï, et après le Sinaï, ils ont fait le Mishkan, ve'shav ha-Kadosh Baruch Hu ve'yishra shchinato b'nehem, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a installé sa résidence parmi eux, c'est le Mishkan. Az Shavu El Malat Avotam. À ce moment-là seulement, ils ont retrouvé le niveau où étaient leurs ancêtres, Ve'az Nerchevu Geulim. Et à ce moment-là, ils sont libérés. Donc, d'une certaine manière, Shavuot, qui est le Zecher du Sinaï, ou peut-être un peu plus tard, un moment où on a construit le Mishkan, alors peut-être c'est Soukhot. D'une certaine manière, on devrait dire à Soukhot. Jusqu'à Soukhot, enfin, Soukhot, c'est la fin de Zman, en fait, Geulaten, on devrait dire. Mais en fait, cette question-là, c'est une grande question, mais le Gaon a expliqué que nous ne faisons pas Soukhot par rapport à la sortie d'Égypte directement. Nous faisons Soukhot par rapport au deuxième Loukhot, vous vous souvenez? C'est-à-dire, en fait, nous faisons Soukhot après Kippour. C'est à Kippour, on a reçu le deuxième Loukhot. Donc, le Soukhot sur lequel on devrait dire que c'est la fin de la Géoula, on est enfin Géoulim, celui-là, nous ne le fêtons pas. Parce que nous, on est sur le Soukhot de la sorte de d'après le pardon après le veau d'or. En d'autres termes, le galout, d'après ce qu'a dit Ramban, c'est une situation dans laquelle l'homme ne vit pas à sa place. Et d'après ça, a priori, la Géoula, c'est quand l'homme retrouve sa place. Mais le Ramban Mechadesh que la Géoula haïta Mahamad Ar Sinai Amishkan, Amishkan. Que la Géoula, c'était Mahamad Ar Sinai plus le Mishkan. Ad Shavu El Malat Avotam. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Ashrat Ashrina, il y a eu présence divine au sein du clan Israël. Et ça a eu lieu alors que les Bnei Israël étaient en plein désert. Alors, d'après lui, c'est quoi la Géoula? La Géoula, d'après Ramban, elle a eu lieu alors que nous étions en plein désert. Dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, la Gemara dans Shabbat, elle étudie les melachot, les fameuses 39 melachot qui sont interdites le Shabbat. Et il y a une règle qui est valable pour toutes les melachot, qui est que si le travail en question, c'est un travail de destruction, alors ce travail, même s'il a été fait Shabbat, volontairement, en toute connaissance de cause, on n'a pas transgressé le Shabbat au point de devoir apporter, par exemple, d'être passible de mort si c'était volontaire ou d'avoir porté un corban si c'était involontaire. Parce qu'on a été mekalkel, on a abîmé les choses. D'autres termes, pour qu'une melacha soit une melacha sur laquelle on puisse être sanctionné si on l'a fait Shabbat, il faut qu'elle soit constructive et pas destructrice. Sauf si, effectivement, cette destruction, c'est une destruction pour pouvoir reconstruire, à ce moment-là, cette destruction n'est pas pure destruction, c'est la condition sine qua non de la construction. À ce moment-là, bien qu'on ait détruit quelque chose, on est néanmoins chayav, on a néanmoins transgressé Shabbat. Et la Gemara demande, Arebe Mishkan, Satru Oto, Almenat, Livnoto, Makomacher. Le modèle des Mlachot, c'est les Mlachot qui ont servi à la construction du Mishkan. Dans la Gemara, elle dit, mais le Mishkan, chaque fois qu'on se déplaçait, on devait détruire le Mishkan. Mais cette destruction-là, c'était une destruction pour reconstruire ailleurs. Alors comment est-ce que on apprend du Mishkan la mlacha de, enfin, le fait de soter Almenat livnot bimkomo? La Gemara répond, Shekivan, Shealpi Hashem yachanu vealpi Hashem yisau, lekach stirat ha-mishkan nechshevet almenat livnot beoto makom. Qui le gabé Ashrina, kol ha-olam ou makom echad. Qui malé remplit le monde entier, la gloire divine remplit le monde entier. Ça veut dire que quand on parlait d'un soter almenat livnot, qui était une construction, c'était almenat livnot bimkomo, de construire à ce même endroit. Par exemple, effacer. Quand on efface pour réécrire à l'endroit effacé, ça c'est un soter almenat livnot. Mais le Mishkan, comme on reconstruisait ailleurs, ça ne s'appelle pas soter almenat livnot. Et du coup, la Gemara, elle dit, en fait, parce que dans le cas tout à fait particulier du Mishkan, il s'agit de la résidence d'Hachem. Donc pour Hachem, le monde entier, c'est toujours le même monde. Il n'y a pas de différence entre ici et là-bas pour Hachem. Alors reconstruire, même si ce n'est pas au même endroit, c'est aussi soter almenat livnot. Donc on peut apprendre de là que soter almenat livnot est une melacha sur laquelle on est chayav Shabbat. C'est-à-dire le makom du Klal Israël, le lieu du Klal Israël. C'est quoi? Hashra'at Hashchina. Le lieu d'Hachem, le lieu du Klal Israël, c'est là où il y a présence divine. Et c'est pour ça que quand ils sont arrivés à un endroit où Hachem a dit, si vous construisez le Mishkan, je résiderai là. Alors on peut dire que les Bnei Israël sont arrivés à leur place, Mimkomam, leur lieu, et donc ils sont Geoulim, et donc ils sont vraiment libérés. Eretz Israël, par rapport à ce qu'on a dit du désert, c'est encore un autre niveau. Pour Matan Torah, pour recevoir la Torah, ces anciens esclaves ont eu besoin, et ça a suffi, ils ont eu besoin, et ça a suffi de 49 jours de préparation pour recevoir la Torah. Pour entrer en Eretz Israël, les circonstances ont fait qu'ils ont eu besoin de 40 ans. Et même après cette préparation de 40 ans, ça n'a servi que pour 850 ans. Et après, ils sont repartis en galoute. Donc pour résider plus définitivement sur la terre d'Israël, il faut beaucoup plus de temps de préparation. Pourquoi? Parce que la Kabbalat HaTorah, c'est une opération spirituelle. Pour se préparer à ce niveau-là, d'arriver à ce niveau-là, spiritualité, il faut 49 jours. Mais la avoda compte pour résider en Eretz Israël, selon la Torah, pour qu'il y ait présence divine en Eretz Israël. Alors il va falloir que cette spiritualité, elle descende dans le quotidien, elle descend dans le concret de la vie en Eretz Israël. Ça, c'est un travail beaucoup plus difficile. Là, il a fallu 40 ans. Le Zohar, il écrit au sujet du pasouk, Kitavou el haaretz unta'atem. Quand vous arriverez en Eretz Israël et vous planterez, le Zohar écrit, Chez Eretz Israël, Ayalehem lichyot chayim tiviim. L'achnis c'est à or shel mala minateva, shel mala minateva, pardon, le tochateva. C'est-à-dire d'amener la lumière surnaturelle, c'est-à-dire celle de la Torah, dans la nature. Ça, c'est une avéda extrêmement difficile. Les avot, bien sûr. Ils ont aussi fait le travail de faire descendre la lumière surnaturelle dans la nature. Et le Klal Israël au Sinaï sont arrivés au niveau des Avot, spirituellement. Ils ont été considérés comme Geoulim, comme libérés. Mais la Avoda des Avot, dans le travail de faire descendre la spiritualité dans le monde de la nature, de faire ce travail des Avot, les Bnei Israël n'étaient pas encore capables de le faire. Ils ont eu besoin de ces fameux 40 ans. Voilà ce que dit, par exemple, le Ramban, enfin, une partie de ce que dit Ramban sur le Sefer Shemot. Alors le passou, le Sefer Shemot, il commence Ve'ele Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayma Et Yaakov Ishuveto Baou. Alors Rashi dit, bien que on les a déjà dénombrés quand ils étaient encore vivants. Et on les recompte maintenant, après leur mort, pour dire Chibatam, pour dire combien ils étaient précieux pour Hachem, si on les compare à des étoiles que Hachem fait entrer et sortir, c'est-à-dire il fait en sorte qu'on les voit, qu'on les voit pas, et que Hachem connaît le nom de chacune des étoiles. Ce qu'on dit, Amotsi bemispar tzva'am, le kulam de Shem Mikare. Les étoiles dont on parle ici, c'est essentiellement des planètes, en fait. Et les 12 Shvatim sont comparés à des planètes, comparés aux 12 planètes. Mais en fait, c'est pas vraiment des planètes. On pourrait plutôt parler de constellations, de quelque chose comme ça, ou de galaxies. Dans chaque mazal, galaxie ou etc., il y a des milliards de d'étoiles. De la même manière, chaque chevet, chaque tribu est une entité qui contient énormément d'individus au cours des années, etc. Alors, le fait que la Torah nous rapporte un peu souvent, elle rapporte de façon surprenante avec la fréquence avec laquelle Hachem compte les Bnei Israël. Il les compte, il les recompte, il les compte. Ça veut dire que il faut entendre que le compte des Bnei Israël, il faut pas l'entendre comme une façon que nous avons, nous, de compter aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des opérations dans lesquelles on compte les gens d'un pays, un recensement. On fait des élections dans lesquelles on compte aussi les gens. Dans ce genre de décompte, on compte, disons, les colottes, on compte les voix ou les droits de... Mais en fait, on ne tient pas compte du tout de la qualité de celui qui met son bulletin dans l'urne. Dans les dénombrements, dans les recensements, on ne tient pas compte. Il n'y a pas des gens qui ont un poids plus important que les autres dans le décompte. Ça veut dire que le dénombrement, aujourd'hui, le recensement, dénombrement, il ne tient pas compte du tout de la qualité spécifique de chacun des individus qui sont décomptés. On compte les bulletins de vote, quoi. On compte les bulletins. Dans le décompte des Bnei Israël, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agissait. L'expression qui est utilisée pour le décompter, c'est Kitissa. Kitissa, ça veut dire, c'est un lachon d'élévation. Donc tu vas élever les Bnei Israël, il faut dire. Donc tu vas mettre en lumière, tu vas exposer la spécificité de chaque individu. C'est en cela que c'est ça que veut dire le texte quand il dit que les bnei Israël sont comparés à des étoiles. Chaque étoile a sa personnalité. Chaque étoile a sa masse, son énergie, etc. Sa composition spécifique. Donc les bnei Israël, quand Hachem les compte, c'est une façon d'élever chacun, de donner à chacun la possibilité de s'épanouir en quelque sorte. Un décompte, c'est un moment où on épanouit chaque personne, on fait apparaître la spécificité de chaque personne. Et dans le quand Rachidi le Hodiah Chibatam, Shenim Shelul, donc le Kochavim, Shemotsian ou Machnissan, de Mispar ou Bishmotam, Mispar et Shemot. A priori, Shemot et Mispar, ce sont deux choses presque contradictoires. Mispar, d'une certaine manière, quand les nazis ont voulu enlever la personnalité de chacun, on a remplacé leur nom par des numéros. D'accord? Ils ne sont qu'un numéro. Un numéro, ça n'a pas de personnalité, justement. Le numéro, c'est ce dont on a besoin pour faire des additions. Pour additionner, il faut oublier la spécificité. Comme je dis souvent, si on demande si on additionne trois poires et quatre pommes, ben le résultat, c'est il n'y a pas de résultat. Le seul moyen d'additionner trois poires et quatre pommes, c'est d'oublier que ce sont des poires et des pommes et de les voir comme des fruits, par exemple. Donc, il faut leur enlever leur spécificité pour pouvoir les additionner, pour que ce ne soit que des numéros. Des numéros, on peut les additionner. Donc ça, c'est Mispar. Shemot. Shemot, c'est justement la mise en évidence de la spécificité de chacun. Et donc, quand on nous dit ici que Akadosh Baruch Hu, il aime les bnei Israël, et du coup, il les compte, comme s'il y avait deux comptes. Il y a un compte où on compte des numéros, on compte des misparim, et un autre compte où on compte des personnalités. Le Rav Volbé, il a dit dans ce sujet-là que on pouvait l'entendre, que il s'agit ici d'Ashgaha Pratit. Il s'agit ici de Providence. Shem, le nom, c'est quand on s'occupe des individus. C'est-à-dire, on s'occupe de chacun en fonction de ce qu'il est. Mispar, c'est le fait que chacun est un élément du tout, d'un tout. Il est constitutif de la somme en question. Lorsque Moshe Rabbeinu a compté les Bnei Israël, Bamidbar, le Passouk dit, Issou et Roche Kol Adat Bnei Israël. On a élevé la tête de toute la communauté des Bnei Israël. Parce que le Inyan, c'était ce qu'on voulait savoir, c'est la Amid et Klal Israël Kulo. On voulait évaluer la totalité du Klal Israël. Et donc, on a plongé en quelque sorte chaque individu dans la totalité, et pour qu'il puisse s'insérer dans une totalité, ben, il va falloir oublier un peu de sa personnalité. Et donc, il y a une hashgacha sur chacun d'entre eux, mais en tant qu'élément de la totalité. Alors que quand on parle des noms, alors on regarde chacun pour soi. Donc quand on dit à la fois les noms et le Mispar Veshem de chacun, c'est-à-dire on fait en réalité deux comptes. Le compte de l'individu, combien de personnalités différentes il y a dans le clan d'Israël. Il y a aussi l'idée de savoir okay, quelle est la puissance du clan d'Israël, combien il y a de personnes en mouvement, par exemple. On veut savoir. Ok, et combien il faut de tentes pour héberger tout ce monde-là? Bon, a priori, bon, chacun a besoin d'une tente. Non, ça veut dire qu'en fait, quand on a fait le compte, alors ça dépend que ce qu'on veut. C'est-à-dire, d'une certaine manière, si tu veux savoir combien de portions il faut distribuer, ou savoir combien de paires de chaussures il faut pour les gens, ok, alors compte les gens. Et maintenant, tu veux savoir. Qu'est-ce que le clan Israël est capable de faire du point de vue esthétique, du point de construction, etc. Alors, il faut savoir combien on a de personnes qui sont susceptibles de faire de la menuiserie, combien vont faire de la broderie, combien vont faire, etc. Et que ceux qui sont spécialistes de la couleur rouge et d'autres spécialistes de la couleur bleue, je ne sais pas. Donc ça, tout ça, c'est les shemot des gens. Le schème de la personne va nous dire ce que cette personne est capable de faire. Et j'ai besoin de savoir, parce que je veux construire quelque chose de particulier, je sais pas, je veux fabriquer une tapisserie ou je sais pas quoi. J'ai besoin de savoir de combien d'artistes je dispose effectivement et combien d'artistes il y a dans chacun des. Et si on a besoin de peintres, on a besoin de, je sais pas, de spécialistes de la gouache, de la peinture à l'eau, j'en sais rien, disons. OK, donc le Sefer Shemot commence par là. Il commence par ce décompte. Non, on regarde toute la personnalité de Ça veut dire, on veut savoir exactement ce dont il est capable dans tous les domaines. Ça veut dire, aujourd'hui, on aura besoin de sa capacité. S'il sait, disons, celui-là, il sait faire A, B, C, aujourd'hui, on aura peut-être besoin de lui pour faire A, et demain pour faire B, et après-demain pour faire C. Mais donc, voilà, on sait, sur chaque opération où on a besoin dans le clan d'Israël que certaines personnes fassent ceci ou cela, on a besoin de savoir tout ce que chacun est capable de faire de particulier. Une fois qu'on a fait ce décompte, qui n'est pas aussi, le décompte ici, c'est seulement, il n'est pas aussi précis, aussi détaillé que le décompte qu'on avait fait dans le Sefer Bereshit. Mais bon, il y a un décompte ici. Pardon? Oui, ici c'est marqué, la Torah elle fait le décompte, c'est pas marqué que c'est qui a fait ce décompte. La Torah dit voilà ce qu'il y avait, voilà ce qu'étaient les gens. Et puis, brusquement, on nous parle d'un problème égyptien. Bon, ça veut dire, Pasouk, dans le Pasouk Chet, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. Voilà. Il y a un nouveau roi qui règne donc en Égypte, qui ne connaissait pas Yosef. De Yosef, on a parlé dans le décompte, parce que lui, il avait une position particulière, puisque les autres sont venus, et Yosef, Hayab et Mitzrayim. Lui, il était déjà en Égypte. Donc Yosef, il a déjà été singularisé, et là, on dit qu'il ne connaissait pas Yosef. Le Sefer Shemot, il commence avec un vav. Ve'elé Shemot. N'est-ce pas? Le Sefer Shemot n'est pas un livre qui commence sans qu'il y ait quoi que ce soit avant. Il est relié avec le Sefer Bereshit par le Vav. C'est un Vav à Chibour. Et donc, ça veut dire que je te parle de quelque chose, je te parle de l'Égypte. Bon, bien sûr que d'où elle vient cette Égypte? Bon, regarde dans le livre des références. Et tu trouveras l'Égypte. Et pourquoi est-ce important qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent Yosef? Ben regarde dans les références, tu verras les bonnes raisons qu'il aurait de connaître Yosef, et peut-être tu comprendras pourquoi il ne connaissait pas Yosef. Est-ce que il le connaissait pas parce que c'était par exemple une nouvelle dynastie? Qui ne voulait pas connaître ou qui ne connaissait pas vraiment la situation, ne connaissait pas Yosef, parce que Yosef, il avait agi dans le cadre d'une autre dynastie, ou bien c'est un roi qui ne voulait pas, Loyada, il ne voulait pas connaître. Ou bien, encore une troisième possibilité, c'est de dire c'est quelqu'un qu'il ne connaissait pas parce que on lui a interdit de tenir compte de Yosef. Il ne connaissait pas parce que il n'avait pas le droit de le connaître. Alors, on nous parle d'un nouveau roi. Franchement dit, qu'est-ce que ça peut bien nous faire que les Égyptiens ils ont un nouveau roi? Bah, mais c'est quand même fondamental. Et comme Rashi dit, il y a une machloket. Vous avez Rashi dit, Vayakom Melech Hadash, Rav Shmuel. Chadamar Hadash Mamash, Vechadamar Shnitrachuk Zerotav. Voilà. Que ce soit dans le Midrash ou dans la Gemara, on nous rapporte cette machloket. On dit qu'il y a une machloket, mais on ne sait pas qui dit quoi. Mais en tout cas, à l'époque de ces deux grands maîtres de la Gemara, Rav et Shmuel, c'est dans les premières générations après les Tanaïm, mais ce sont des Amoraïm, c'est les maîtres de la Gemara. Et Rav est un peu plus âgé que Shmuel, Rav, il est tellement proche que dans certaines circonstances, on le considère comme un Tana. Ça n'est jamais, à ma connaissance, jamais dit sur Shmuel. Shmuel est un peu plus jeune. Shmuel, il est clairement un Amora. Et donc, il y a une discussion entre les Amoraïm sur la lecture qu'il faut faire de ce texte. Qu'est-ce que veut dire que le roi était un nouveau roi? Alors, il y en a un qui dit, ben, il faut prendre le mot nouveau, nouveau roi, au sens de, c'est vraiment un nouveau roi. Alors, un nouveau roi ou une nouvelle dynastie. Et l'autre dit non, c'est le même roi ou la même dynastie, mais, dit Tratchou, il y a un renouveau dans ses décisions. Ils ont changé de politique. Il a changé de politique. Ça veut dire que c'est un roi qui, jusqu'alors, quand il gouvernait, il avait présent à l'esprit la dette que l'Égypte avait par rapport à Yosef, éventuellement de faire bénéficier en quelque sorte les descendants de Yosef, la famille élargie de Yosef, de cette dette de l'Égypte. Ça, c'était ce qui se faisait jusque-là. Et le roi a changé d'avis. Et désormais, on ne tient plus compte du tout de ce que Yosef a fait. Donc, c'est une façon de nier la dette de l'Égypte à l'égard de Yosef. Celui qui pense que le roi a changé de politique, de pensée, de façon de diriger, il dit qu'il a changé, mais il n'explique pas pourquoi il a changé. Alors, il y a des midrashim qui disent bon, qu'il a changé, c'est lui qui a changé. Et il y a un autre Midrash qui dit qu'en vérité, lui, il a changé parce qu'on l'a obligé à changer. En vérité, cette dynastie qui connaissait Yosef, c'est une dynastie qui, c'est juste, c'est vrai que Yosef a sauvé l'Égypte. Mais Yosef, il a, en tout cas, il a sauvé la mise à Paro, et il a aidé Paro à être ce qu'il voulait être, c'est-à-dire il voulait être une divinité supérieure à la divinité Nil. Et donc cette dynastie-là, ils ont personnellement une dette par rapport à Yosef, une dette que n'ont pas les nobles, toute la cour de Paro, qui eux auront plutôt tendance à en vouloir à Yosef, parce que n'oubliez pas que tous ces gens-là, ils ont dû se vendre à Paro, mais c'était se vendre à Yosef, au nom de Paro, mais ils ont dû se vendre pour pouvoir manger, parce qu'il y avait plus, il n'avait plus de blé et il n'avait plus d'argent. Il n'avait plus de biens pour acheter ce blé qu'on voulait bien leur vendre, mais qu'il fallait qu'ils paient. Et donc, ils ont été obligés de se vendre comme esclaves. Et bien entendu, ils ont d'abord commencé par perdre leur bien, ils ont perdu leur territoire, leur terrain, etc. Et tout ça, qui était, enfin, devant qui ils l'ont perdu? Ils l'ont perdu devant Youssef. Donc ces gens-là, ils ne devaient pas porter obligatoirement Youssef dans leur cœur. Et donc il y a un midrash qui dit que ces gens-là, ils ont voulu oublier Yosef. Non seulement ils n'allaient pas l'accorder à sa famille des privilèges, ils vont aller même plus loin. Mais en tout cas, et là, ils ont eu peut-être un conflit avec Paro. Parce que Paro, personnellement, il savait combien il était en dette par rapport à Yosef. Et lui, il ne voulait pas qu'on prenne ces mesures dont on va parler, qui sont contre les Juifs. Il voulait qu'on continue de bien les traiter, en quelque sorte. Mais les autres ont dit non, non. Et ils l'ont menacé. D'après le Midrash, ils l'ont menacé. Ils lui ont dit, ou tu fais ce que nous te disons, de prendre toutes ces mesures contre les Juifs dont on va parler, ou alors on te dégomme, ça veut dire tu seras plus empereur d'Égypte. Et le Midrash dit que lui, il n'y croyait pas, il a pas, il pensait qu'ils n'oseront jamais. Et donc il a résisté. Mais ils ont osé. Et il est revenu à quatre pattes quasiment, en les suppliant de le remettre en place. Et qu'il allait faire ce qu'il voulait. Et le Midrash dit que chaque fois que il l'obligeait à prendre un décret contre lui, il veillait, surveillait qu'il le prenait vraiment complètement et que personne n'échappait à ces décrets anti-juifs. C'est un Midrash, c'est pas la totalité des Midrashim qui pensent comme ça. Il y en a qui pensent simplement que c'était une autre dynastie, ou bien que même si lui l'a changé d'avis, il a changé d'avis pour n'importe quelle raison, peu importe. Et alors ce roi-là qui a changé de position, façon de gouverner, il dit à son peuple, c'est intéressant qu'il parle à son peuple. C'est dans l'Antiquité, imaginez qu'un pharaon ou un empereur quelconque parle au peuple, ça paraît très étonnant, en fait. Donc la question est de savoir évidemment qui était son peuple. C'est qui le peuple de Paro, en fait? Iné, voici. Alors, il utilise un mot qui n'a pas été utilisé jusque-là pour qualifier les Juifs, en fait, les Hébreux. Iné am, le peuple. Et ce peuple, il a un nom. Lui, il lui donne un nom. Am bnei Israël. Le peuple des bnei Israël. C'est pas Am Israël, c'est Am bnei Israël. Le peuple des fils de Israël. Ce peuple-là, il est rave, il est nombreux. Ve'atsum, il est extrêmement puissant. Mimenu, plus que nous. Alors, est-ce qu'il est rave mimenu et aussi atsum mimenu, ou il est rave mais seulement atsum mimenu? Là, c'est le plus que nous, est-ce qu'il est en facteur sur les deux termes ou est-ce qu'il ne concerne que le dernier terme? Rachid a dit encore une chose que je n'ai pas mentionnée, mais le Rachid, sur le Rachid Asher le Yadat Yosef, Rachid l'a tranché, n'est-ce pas? Rachid a dit Asa atzmo ki lo yado. Il a fait comme s'il ne le connaissait pas. Rachid a choisi de dire qu'il le connaissait, mais il a fait comme s'il ne le connaissait pas. Et peut-être que ça peut aller d'après les deux. Il était nouveau, mais il peut très bien, même s'il est un nouveau roi, il peut très bien avoir connaissance de ce qui s'est fait sous le roi précédent, et même éventuellement, si c'est une dynastie, ce qui s'est fait sous la dynastie précédente. Même s'il est effectivement réellement nouveau. Donc voilà, il leur raconte quelque chose. Alors vous voyez, il y a ce fameux mot de Hiné qui commence, Vayomer est la mot Hiné. Voici. Donc il leur dit, voilà, il y a quelque chose de nouveau là. Quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est inné. Ça veut dire qu'il y a un peuple, dans le peuple égyptien, un État dans l'État, enfin un peuple dans le peuple, qui est un peuple plus puissant que nous. Alors évidemment, c'est très dangereux. Extrêmement dangereux. Alors, l'idée, c'est s'ils sont trop nombreux et ils sont dangereux, ben, on n'a qu'à les expulser. C'est un peuple, ils sont étrangers, ils ne sont pas égyptiens. On peut les virer. Mais ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils voudraient les expulser, mais si on les expulse, on se prive de leur talent, on se prive de leur travail, de leur capacité. Ils sont utiles. Et donc, on peut pas, on va pas se priver d'eux. Alors, au lieu de les expulser, ce qui nous ferait perdre cette force-là, Paro a une autre idée. Avar, dit Trakmalo, allons, soyons plus intelligents que lui. Penirbe Veaya, de peur qu'il continue de devenir encore plus nombreux. Veaya qui tikrena milchama, et que si jamais il y a une guerre qui se déclare, Il pourrait se joindre à nos ennemis, venir nous et faire la guerre contre nous. Et sorte qu'il s'en aille et qu'on perde donc. Cette population utile. Donc, il faut pas, il ne faut pas qu'il puisse s'enfuir non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez, si moi lave sarem missim, le man anoto besivlotam, vaiven arem isknot le pharo, et pitom, Alors, qu'on peut faire, c'est imposer, on va leur imposer au-dessus d'eux, on va mettre Saré Missim, des princes, des chefs, qui vont leur imposer des missimes. Les missimes, c'est des impôts, mais c'est des corvées. Les man anoto, afin de accabler ce peuple, le sivlotam, en les faisant souffrir, en fait, grâce au fardeau qu'on va leur imposer, et on va leur imposer de construire, il a construit, Arem Iskenot le Paro, des villes silos, des villes réserves pour Paro, Pitom et Ramsès. Et donc, ils ont inventé la nécessité de construire Harem Iskenot et on va affecter les Juifs à la construction de ces Harem Iskenot. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Le Kacher Yahanu Oto, Ken Irbe Vechen Ifrotz, Vipnei. Béné Israël. Mais plus on les accablait, lorsque on les faisait souffrir, plus on les faisait souffrir, plus ils se, de la même manière, de façon presque proportionnelle, ils se multipliaient et ils éclataient. Eretz, c'est vraiment faire une brèche, quoi. Il y a une explosion démographique, ça s'appelle en français. Vayakoutsou, Vayakoutsou, Ibn Israël. Et les Égyptiens étaient dégoûtés par les Bnei Israël. Ils vomissaient les Bnei Israël. Faut essayer de comprendre. D'accord, on aurait pu dire ils avaient peur, que. Mais non, ils étaient dégoûtés. Comment est-ce qu'on. Pourquoi est-ce que ça débouche sur du dégoût? Alors, Rachid, sur le Virkoutsou, Rachid dit. Katsu קצו בחייהם. Littéralement, ça veut dire ils vomissaient leur vie. Y a une autre façon de dire que c'était comme des kotsim bene. Comme si, en fait, de voir ces hébreux-là qui se multipliaient, c'était comme si, en fait, ils avaient des épines dans les yeux. C'est-à-dire, Véakoutsou, c'est ou bien vomir, ou bien ils ont produit des kotsim, c'est-à-dire des épines dans leurs yeux. Ce Vayakutsu, Abolbe dit, les gens écrivent des livres, de gros livres sur l'antisémitisme. Ils se demandent comment est-ce qu'on en est arrivé là. En vérité, l'antisémitisme, c'est d'avoir irrationnel, dit-il. Ven ba maaler sikhli. Il n'y a pas de processus intellectuel qui permette de l'expliquer. En Allemagne, il y avait 60 millions d'habitants. Il y avait 600 000 juifs, c'est-à-dire il y avait 1% de la population qui était juive. Comment est-ce possible de dire que les Allemands avaient peur des juifs? Après coup, pardon? Après coup, on peut chercher, éventuellement trouver des processus explicatifs que les Juifs ont pris des positions trop importantes. C'est vrai que, a priori, il n'y avait pas des porteurs, des managers parmi les Bnei Israël. Il y avait peu de cordonniers. Mais il y avait beaucoup de médecins, beaucoup de professeurs, etc. Donc on peut dire que c'était à cause de ça, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est la thèse de Rav Wolbeck, qui était d'origine allemande, il connaissait bien la situation. Le Midrash, il donne une autre explication. Midrash qui explique qu'effectivement, il vomissait les Juifs. Le Midrash, il explique, ça va de pair avec une explication de Rabbi Israël Salanter, qui explique pas qui explique la situation en Égypte. Il dit que quand ça a commencé à aller mal, les Juifs se sont demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de réduire la haine, enfin, ou le. Ils ont dit, finalement, la seule différence entre nous et les Égyptiens, les Juifs étaient déjà un certain nombre d'années, presque 100 ans en tout cas, en Égypte. Et certains ont décidé donc que puisque la seule différence qu'il y a entre eux et nous, c'est la mitzvah de la Mila, eh bien ils ont cessé de faire la Mila. Donc ils ont voulu ressembler aux Égyptiens. Alors, pour raconter la chose suivante. Quand les Juifs, essentiellement c'était les Juifs allemands, ont décidé de fonder le judaïsme réformé, ils ont fait un congrès dans lequel, effectivement, ils ont décidé d'abolir la différence. Et en particulier, ils ont dit qu'il n'y avait pas de raison de s'empêcher de se marier entre juifs et non-juifs. On a supprimé cette barrière entre nous. Alors, Rabbi Israël Salanter, quand il a entendu ça, il a dit aujourd'hui, les Juifs ont supprimé la barrière fondamentale qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs. Il viendra un jour où ce sont les non-Juifs qui mettront cette barrière. Et malheur à nous. Je crois que la fondation, elle a eu lieu près ou à Nuremberg. Et comme vous savez, les lois de Nuremberg, c'est les lois qui ont interdit aux Allemands d'avoir des rapports avec les Juifs. C'est la même explication. Les Juifs ont voulu supprimer la barrière. Alors, dit le Midrash, Hachem a dit, vous voulez supprimer la barrière, vous de votre côté, vous voulez supprimer la barrière. Il viendra un jour où ce sont les autres qui vont, les Égyptiens vont rétablir la barrière. Et pour qu'il y ait une barrière, comment les Égyptiens peuvent mettre une barrière radicale? Hachem a fait en sorte que quand un Égyptien voyait un Juif, il vomissait. Il a introduit cette règle dans la nature. C'est pas simplement un interdit. Un interdit, ça se tourne, ça se contourne. Mais quand vous avez une réaction de dégoût, vous aurez du mal à la contourner. Donc c'est pour ça que Et donc, seulement, évidemment, ça c'est le Midrash qui va expliquer, parce que la question, elle vient. Pourquoi tout à coup ils se mettent à être dégoûtés? Qu'est-ce que ça a à voir Oh, c'est interdit, on veut pas, on a peur, etc. Mais être dégoûté, c'est compliqué. Physiquement, ils avaient mal. Ça leur faisait mal aux yeux. Vous avez comme des épines dans les yeux. Alors le Midrash a traité le problème, il a expliqué pourquoi. Une façon de mettre la barrière du côté des Égyptiens. Mais comme on sait, ça n'a pas servi. Alors, Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarer. Les Égyptiens ont asservi les Bnei Israël befarer. Ils ont de façon très rigoureuse. Vaymaru et Trayem. Avodakasha. Ils leur ont rendu la vie amère avec des travaux difficiles. Bechomer ou Bilvenim, avec le travail sur le mortier, sur les briques, ou Bechol et tous les le travail des champs. Kol Tous les travaux qu'on leur a fait faire, qu'ils leur ont fait faire, étaient d'une dureté, d'une rigueur. Toujours ce befarer.
C'est un debout qui précède les mesures. Ces démarches de dégradation. Mais est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé dans l'Allemagne, c'était plutôt le fait de leur avoir fait subir des mesures dégradantes qui les ont rendus répugnants?
Là-bas, c'était ce qui s'est passé là-bas, c'est dans la législation. Les Juifs ont changé la législation permettant les mariages avec des non-juifs. D'accord? Alors, c'est les goyim qui ont mis une législation interdisant les mariages entre juifs et non-juifs. Chez nous, on parle de dégoût, c'est autre chose, mais c'est la même idée, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas la barrière halakhique que je vous ai mise, alors les goïms, ils ne vont pas mettre une barrière halakhique. D'abord parce que les Égyptiens, quand on regarde tous les midrashim et tout ce qui est dit ici, on voit que les Égyptiens ont toujours fait attention de ne pas prendre des lois anti-juives. Il n'y a pas de loi anti-juive. Quand ils vont jeter les bébés, on va dire tous les garçons ont un problème. Après, on va dire aux gens, ça concerne que les juifs. Mais la loi, c'est-à-dire que si on retrouvait aujourd'hui les archives, dans les archives, c'est marqué, il y a eu un problème et il faut noyer les enfants. Tous les enfants. C'est pas marqué les enfants juifs. Simplement dans les décret d'application, comme on dit, mais ça concerne que les Juifs. Et donc, et l'Égypte non plus. L'Égypte n'a pas pris des mesures anti-juives. Ils ont pris des mesures, bon, alors on va impliquer les Juifs, puisque vous êtes nombreux, etc., vous devez vous impliquer un peu plus. Alors, il y a même le fameux Midrash de l'histoire de la pierre, vous connaissez déjà ce Midrash, qui dit que quand ils ont construit les Pitom et Ramsès, on a fait beaucoup de pubs dans les réseaux sociaux, partout, il y avait de la pub pour la construction. Et ils ont décidé de mettre un petit insigne pour les gens qui contribuent à cette construction. Alors, ils avaient une petite pierre, suspendait autour du cou, comme ça, avec un collier, pour montrer qu'on en est, on participe à ça. Et puis après, on a fait un concours de qui est-ce qui en produisait le plus de briques, le plus de. Les Juifs, ils se sont poussés. Ils ont gagné, évidemment. À ce moment-là, on a mis des barbelés autour, et on leur a dit, alors maintenant, vous continuez de faire ça. Ils ont dit, non, on ne peut pas. Mais bien sûr, vous pouvez, regardez, vous venez de le faire. Donc, je dis des barbelés, ce n'est pas vraiment des barbelés. On dit, bon, OK, maintenant vous continuez. Vous êtes les meilleurs là-dedans, donc c'est vous qui allez faire ça. n'a pas fait des. Alors, ben, il y a Avidouil, Befarer, ça veut dire. On leur a fait faire des choses normales. Ils ont travaillé, ils ont fait du mortier, mais tout le monde faisait du mortier. Des briques, on fait des briques, c'est pas un travail de. On a fait des travaux des champs, mais on a été toujours beaucoup plus rigoureux par rapport à eux.
Parce que même Paro, le pharaon, a mis
Oui,
la
alors, ça,
tuile.
oui, non, il y a des gens qui trichent parce qu'ils ont déjà entendu le Midrash
Ah, pardon.
et qui me coupent. En
Pardon,
fait, Paro
excusez-moi.
lui-même, il se baladait avec une petite pierre ici autour de son collier. Et donc, c'est sûr que les Juifs, ils ont voulu en être, bien sûr.
Bon, mais Rav, vous dites que les Juifs, enfin, ça court la ruche, ça. Que le juif est intelligent. Et là, vous nous le présentez comme finalement très bête.
Pas du tout. Il pense qu'il est très intelligent. Il gagne les concours. Il a gagné le concours.
D'accord, oui.
Non, pas par accident. Ils se sont qualifiés pour faire ces travaux. Alors après, en même temps, on les a asservis en réalité. Nous, on aurait dû se tenir à carreau. Yosef, il leur avait dit, vous restez dans le pays de Goshen. À Goshen, ils ne viendront pas vous chercher. Parce que là-bas, c'est un pays de pâturage avec des. Ils étaient dégoûtés par l'élevage. Ils ne voulaient pas. Les Égyptiens, ça ne leur plaisait pas, cette histoire d'élevage. Alors, mettez-vous là-bas, faites de l'élevage, d'accord? Et restez à Goshen. Si vous êtes à Goshen, ils ne viendront pas chez vous. Vous serez planqué quelque part, et donc pas tellement affecté par la société pourrie d'Égyptienne. Mais ils ne sont pas restés à Goshen. Ils ont, comme dit le Midrash, il y en avait partout. Ils ont envahi l'Égypte. Et donc, comme ils étaient très nombreux, il y avait des Juifs partout. Ils étaient tous, c'est tout le. Je ne sais pas, c'était eux qui tenaient la télévision, la radio, ils tenaient tout.
Joseph n'a pas
Pardon.
pu rétablir, réhabiliter.
Bon, peut-être qu'à l'époque de Yosef, c'était moins fort, mais après, la suite, Yosef, il est mort.
Oui, donc il n'a pas pu faire un travail en profondeur. Ce travail est impossible. Ce que me semble entendre du Chiou, c'est que c'est illusoire que l'antisémitisme disparaisse.
L'antisémitisme, il vient pas obligatoirement de ça. Comme disait le Ravolbe, c'est irrationnel.
Voilà,
Donc,
oui.
l'irrationnel, on n'a pas de méthode rationnelle pour le faire disparaître si facilement.
Oui, mais Rav, à l'époque du nazisme, les lois de Mendel commençaient à se faire connaître et tous les généticiens commençaient à les appliquer. Et les Allemands craignaient justement que si on ne peut plus reconnaître un juif, il va polluer le sang arien et il faut les détruire. C'est pour ça que seule la mort physique pouvait préserver la race arienne de se mélanger à une race inférieure à leurs yeux, qu'étaient les juifs. Donc ce biologisme racial s'explique parce qu'ils avaient connaissance de la génétique et qu'ils ne voulaient surtout pas, comme justement les juifs devenaient invisibles par leur assimilation dans la société allemande, c'était ça la solution finale, la raison de la solution finale.
Mais ce n'est pas
C'est-à-dire,
la seule raison. C'est pas la seule raison. C'est
non, mais c'est pas
de l'antisémitisme racial. C'est une des composantes, c'est un des vêtements de l'antisémitisme.
Une
Il y
des
a aussi
formes.
un antisémitisme, même s'il n'est pas racial, c'est l'antisémitisme chrétien, l'antisémitisme de la différence, l'antisémitisme tout court, l'Église qui, quand on arrivait en Pologne, on nous a ouvert le Casimir, il a ouvert les bras, il était archi content que les Juifs arrivent. Et les Juifs se trouvaient très très bien en Pologne à ce moment-là. Tout à coup, l'Église a compris que prenait trop de place et que ça risquait de leur nuire. Je ne sais pas en quoi ils avaient peur exactement, mais en tout cas, ils ont fait ce qu'il fallait pour que les Polonais deviennent antisémites, alors que ce n'était pas leur intérêt du tout aux Polonais. C'est leur intérêt que les Juifs, de même que c'était l'intérêt de l'Espagne, que les Juifs restent en Espagne. Quand ils sont partis, quand ils ont chassé les Juifs, l'Espagne, elle a périclité.
Ce côté irrationnel ressemble à une clala.
Bon, ça peut être une clala. Peut-être le problème, c'est effectivement, on ne sait pas très bien pourquoi ce peuple-là en particulier est plus antisémite que les autres. Bon, il y a aussi de l'irrationnel complet. Les Japonais,
Il n'y
ils
a pas de
étaient
juifs.
antisémites, il n'y avait
Oui.
pas, ils savaient même pas quand les Juifs sont arrivés au Japon. Les Juifs qui venaient de la Yeshiva de Mir, etc., ils étaient au Japon, sous la gouverne des Japonais, et il y avait des affiches contre les Juifs, mais ils n'ont même pas fait le lien. Parce qu'ils ne savaient pas. C'était des Blancs, pas comme eux, de toute manière. Voilà, on s'arrête là.